Sport Matin Dimanche, la rediff.
Très heureux de vous retrouver dimanche 6 février. Et oui, déjà, 6 comme le nombre des personnes qui ont travaillé sur ce Sport Matin Dimanche. Fabien, David, Hugo, Sylvain, Jordan et Jérôme. D'habitude, quand on remercie, c'est toujours à la fin. Eh bien, moi, j'avais envie de le faire au début de ce SMD parce que ce Sport Matin Dimanche qu'on vous propose ce matin, bah, je le trouve de fort belle facture. Reste à nous à être bons ce matin, Hugo. En tout cas, on a tout mis en œuvre pour que nos 9 invités au micro de Colline qui vont vous faire partager des émotions, des réactions, des coups de gueule. Émotions, coups de gueule et jeunesse, c'est d'ailleurs ce qu'on a posté avec la petite photo sur la page sur les réseaux sociaux de Colline. Très bon dimanche à vous.
Sport Matin Dimanche, la rediff.
Allez, on va commencer par le football comme d'ordinaire, mais pas avec les résultats. On va commencer par un hommage, puisque lundi matin dernier, Cerizet, son club de foot, le COC, le Bocage aussi, hein, Courlet, la Chapelle Saint-Laurent, des clubs où il a aussi entraîné, tous se sont réveillés tristes, peut-être un peu groggy en apprenant le décès d'André Le Goff, emblématique joueur, entraîneur aussi de jeunes au CO Cerizet, et ceux qu'il a entraînés, et il en a entraîné des jeunes à Cerizet, sur le stabilisé, aujourd'hui remplacé par le synthétique, ou bien sur le terrain de la zone, aujourd'hui devenu le parc économique de Longchamp, route de Combrant. Tous ces jeunes, tous ces moins jeunes, aujourd'hui vous diront combien Dédé les a marqués, soit parce qu'il a permis à certains de se surpasser, de se sublimer, soit parce qu'il en disputait aussi, parce que leur technique, leur attitude lui déplaisait. Il était comme ça, Dédé. Perso, je retiendrai qu'il a été l'entraîneur qui m'a fait aimer le foot. C'est de lui où tout est parti, un peu mon patient zéro, mon entraîneur zéro en somme. Et ceux qui ont joué avec, que retiennent-ils? Eh bien, on a posé la question à l'un d'eux, Carlos Ferreira, l'emblématique gardien de but de cette grande époque. Eh oui, le CO Cerizet était en 3e division, c'était l'équipe phare du département à ce moment-là. Alors, on va se replonger dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça fait peut-être un peu cliché, même s'il est bon parfois de se replonger dans ce temps ancien, comme pour mieux se rappeler d'où l'on vient. Carlos, lui, se rappelle parfaitement de ses débuts avec Dédé.
Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, l'équipe première, donc avec cette génération de Jean Mivion, Jean-Claude Fradin, Jacques Ménard, moi, qui étais le plus jeune de la bande, encadré donc par Dédé Le Goff, évidemment, Louis Rau, Claudie Rouget, Jojo Tessier, c'était vraiment la bande. Et cette bande de jeunes qu'on est arrivé, on était donc on a été pris sur leur aile.
Avec un Dédé Le Goff meneur de jeu, attention, hein, on vous parle d'un meneur de jeu d'il y a plus de 50 ans.
Un meneur de jeu de l'époque, quoi, on va dire. Parce que maintenant, on voit que dans le football moderne, maintenant, on peut plus parler de meneur de jeu. C'est surtout une équipe. Ouais. Mais nous, dans le temps, on avait encore le fameux libéraux, on avait les alliés, droit à gauche, on avait les milieux, et puis on avait un fameux numéro 10. Le jeu, c'était le dépositaire de jeu. Hein. On savait très bien que Dédé, quand on lui donnait le ballon, il allait l'utiliser comme il fallait.
Dédé numéro 10, meneur de jeu, et même un peu plus, se rappelle Carlos.
Dédé était déjà le maître à jouer de cette équipe, quoi. Donc c'était déjà, entre guillemets, la star. Dédé, c'était quelqu'un qui, rien qu'à lui tout seul, il pouvait te faire basculer un match d'un moment à l'autre. Donc souvent de fois, quand on ne savait pas trop quoi faire du ballon, on lui donnait à Dédé, il se débrouillait. On savait qu'il allait en faire ce qu'il fallait. C'était vraiment un leader sur un terrain.
Un maître à jouer avec deux atouts. La vision du jeu, vous l'avez compris, mais aussi la frappe.
Ah ben, Dédé, il avait une frappe de mule. Ben, je peux te dire, des fois, à l'entraînement, on faisait des petits concours comme ça, parce qu'il aimait bien me mettre un petit peu au défi aussi. Et puis, des fois, c'était quelqu'un qui pouvait frapper très, très fort. Hein. Et puis, même que ce soit à 400 mètres, il m'allumait pareil. Et puis, ça nous faisait rigoler, quoi. Donc, c'était vraiment... c'était quelqu'un qui, même à l'entraînement, il lâchait rien, quoi. C'était vraiment... alors, une vision du jeu au-dessus de la moyenne... Une frappe de balle aussi, mais surtout un leader, quoi. C'était quelqu'un qui pouvait se démener partout, enfin, surtout dans le milieu de terrain, pour combler tous les trous ou alors faire jouer. Parce qu'en plus, c'est vrai que lui, il pouvait, avec sa technique, il pouvait partir de notre camp avec balle au pied et puis arriver à l'autre bout. Hein. C'était quelqu'un, un dribbleur exceptionnel. Donc, je pense que Dédé restera comme un joueur qui aurait marqué l'histoire du COC.
Vous l'avez compris, hein, André Le Goff, bien plus qu'un simple joueur, un sacré personnage.
Ah, c'était un personnage, parce que Dédé, si tu veux, c'était... Alors déjà, sur un terrain, c'était vraiment un gagneur. Cette mentalité de rien lâcher, et puis tout ça. Souvent, de fois, un petit peu aussi, je dirais, chambreur. Parce que, comme tout joueur d'une classe au-dessus de la moyenne, il avait un petit peu tendance à en abuser, des fois.
Et Carlos, de se souvenir de ce fameux 32e de finale de Coupe de France à Bayonne.
À la fin du match de 32e de finale de Coupe de France à Bayonne, contre Bayonne, à la fin du match, il était fou furieux après l'arbitre.
Vous aviez perdu.
On a perdu 2-0 et puis on a été un petit peu dominé quand même en première mi-temps, mais ensuite, Dédé, justement, a mis une balle sur le poteau. A priori, il y a eu un penalty un petit peu oublié sur Jean Mivion. Et puis là, je pense que Dédé a dû certainement avoir des petits mots avec l'arbitre. Donc, pour lui, il l'a pris en grippe. Et puis ensuite, il pouvait, dès qu'il touchait le ballon ou qu'il y avait une action en Pierluigi, il sifflait contre lui. À la fin du match, il est dans les vestiaires, il était fou furieux. Et je dis, bah oui, cet arbitre, il m'a pris en grippe. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Bah, enfin, nous, on s'en doutait bien pourquoi. Mais bon, c'est le caractère d'Adé Le Goff. Quoi. C'était vraiment un leader, un gagneur. Et puis, il nous encadrait sur un terrain. On était sous son charme, on va dire, parce que c'est vrai qu'on pouvait... derrière, on avait la tâche d'arrêter les ballons, puis lui, il se chargeait de l'offensive, quelqu'un qui pouvait marquer ou faire marquer.
Carlos, de se souvenir de Dédé sur le terrain, bien sûr, vous l'avez entendu, mais aussi en dehors du rectangle vert.
Dédé, après les matchs, moi, j'ai dit... Alors, à cette époque, c'était... Je ne sais plus si maintenant on pourra parler de la même chose actuellement. C'était cet esprit d'équipe qu'on trouvait sur le terrain, ben on l'a trouvé en dehors. Et à chaque fois qu'il y avait, que ce soit une fête, après les matchs, on se retrouvait tous, ben, tout le monde était ensemble. C'était vraiment cet esprit d'équipe. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous a fait faire cette carrière aussi loin, jusqu'à la montée en 3e division. C'est ce noyau de cet esprit d'équipe qui nous animait sur le terrain. En dehors, ben, on se souvient qu'après les matchs, c'était chez Louisette et Guy Baudouin. Donc, et puis cet esprit d'équipe, ça se traduisait pareil. On était tous solidaires. C'était quelqu'un qui... en dehors du terrain, ensuite, ben, c'était comme les autres. Hein. C'était pas quelqu'un qui se prenait au-dessus de la moyenne. C'était quelqu'un de très simple. C'était quelqu'un comme nous, quoi. Donc, nous, si tu veux, moi j'étais le plus jeune. Donc, à 17 ans, t'imagines. Moi, j'arrivais là-dedans. Je découvrais ce monde-là. Donc, moi, j'ai vécu les plus belles années de football dans ma vie. Oui, c'est clair.
Et Carlos, de conclure en résumant parfaitement le parcours d'André Le Goff au CO Cerizay.
Pour Dédé, mais je pense que c'est quelqu'un qui restera dans l'histoire du football de COC pour toutes ces raisons, parce que c'était vraiment un joueur d'exception.
Et d'ailleurs, le CO Cerizay a rendu hommage et rendra hommage tout au long de ce week-end à André Le Goff lors des différents matchs du club. Et certainement que l'hommage qui lui a été rendu hier soir à l'occasion du CO Cerizay face à Neuville a été empli d'émotions. C'était notre clin d'œil pour coach Dédé. Allez, sans transition, le foot, on y reste avec le rectangle vert, les matchs qui ont débuté en Ligue 1, avec vendredi soir la victoire de Marseille face à Angersco, 5-2, le réveil des Stéphanois face à Montpellier, 3-1. J'ai bien aimé le petit papier de Régis Dupont dans l'équipe ce matin, qui se dit quand même, certes, Saint-Etienne se réveille, c'est tant mieux, mais Saint-Etienne, écoutez bien, a déjà utilisé 38 joueurs depuis le début de la saison. Ah bah oui, c'est vrai que ce mercato vient un peu chambouler la donne, toujours est-il que les supporters stéphanois, parce qu'ils se sont fait chambrer hier dans l'après-midi par les supporters marseillais, bien là, ils sont un peu à égalité, leurs deux équipes phares l'ont emporté. Monaco, hier soir, a battu Lyon 2-0, Lorient-Lens, c'est pour tout à l'heure. Nice, Clermont, Reims, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, 3 face à Metz, Rennes face à Brest, le derby breton. Et puis ce soir, Lille face au Paris Saint-Germain. Le championnat de Ligue 2 avec beaucoup de matchs nuls, même si Toulouse avait ouvert cette 23e journée hier après-midi en s'imposant à domicile face à Dijon 4-1. Les rencontres d'hier soir se sont quasiment toutes soldées par de petits scores ou de scores vierges, même à l'image de ce Niort-Le Havre hier soir 0-0. Alors parfois on s'enflamme autour de scores de parité, hein, de 0-0. Là ce fut pas trop le cas, mais on a vu un match de haut niveau avec des équipes très bien installées tactiquement. Je vous propose d'écouter tout de suite Paul Le Guen, l'entraîneur havrais. Alors satisfait de ce résultat nul, mais une satisfaction teintée d'une pointe d'amertume.
Je suis évidemment très satisfait de la qualité de notre jeu. Je trouve qu'on a joué pendant 90 minutes, on a essayé de proposer ce que l'on est capable de faire de mieux. Je trouve qu'on a bien joué au foot, mais on n'a pas marqué. C'est dommage parce qu'on a eu beaucoup de situations favorables. On rate une belle opportunité, sincèrement, sur le match, on rate une belle opportunité parce qu'on a vraiment forcé Niort à beaucoup défendre. Alors c'est vrai qu'ils le font bien, mais notamment en première mi-temps, on les a quand même acculés et on les a forcés à beaucoup défendre. Un 0-0 qui laisse un goût amer, parce que même si Niort se trouve sur une très belle dynamique, même s'ils ont une équipe très, très bien organisée, ce soir, il y avait vraiment la possibilité de gagner ici, compte tenu de ce que l'on a produit.
Alors c'est vrai qu'il y a eu une frappe sur le poteau, hein, d'Ablin, le néo-havrais qui vient d'être prêté par le Stade Rennais, mais il y a aussi cette possession de balle qui a plutôt été quand même en faveur des havrais. On est allé retrouver coach Sébastien Desabre, évidemment, qui lui veut surtout raisonner en termes de série, parce que les Chamois venaient d'enchaîner 3 matchs en une semaine. Il est plutôt satisfait après ce match nul.
C'est la fin d'une série à 3 matchs, donc sans prendre de but. Ça, c'est ce que je retiens. Et puis ce soir, on peut dire qu'on a joué une très très belle équipe de Ligue 2. Le Havre qui a une qualité technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne, avec une organisation de jeu aussi un petit peu particulière, 3-4-2-1 c'était en tout cas pour nous, sur la première mi-temps, je pense qu'on a manqué un peu de punch, un peu de jus, j'ai trouvé, on avait du mal à garder le ballon. Après, en deuxième mi-temps, bon, après, on s'est pas affolé, hein. On a été bas, on a travaillé ensemble. On a concédé une ou deux situations sur leur côté gauche, notre côté droit. Et puis, en deuxième mi-temps, par contre, on a été mieux. On a eu un bon temps, 20, 25, 30 minutes. Puis après, on a senti un peu de fatigue en fin de match, quoi. Mais c'est plus ou moins normal. Nous, on continue. Ce qui est satisfaisant ce soir, c'est qu'on continue à avancer. On prend un point. Voilà. Alors, c'est vrai que on avance par un petit pas ce soir, alors qu'on avait avancé par un grand pas sur les dernières rencontres. Mais on est satisfait. En tout cas, moi, je suis satisfait de la débauche d'énergie et de la cohésion d'équipe ce soir.
Il y a eu effectivement débauche d'énergie parce qu'il a fallu contrecarrer cette possession havraise 0-0. Donc hier soir, des Chamois qui restent quand même sur 4 matchs invaincus et puis surtout avec 4 clean sheets, hein, 4 fois où Quentin Bratt n'est pas allé chercher le ballon au fond des filets. Ça reste une très belle performance. Les Niortais et Havrais sont à égalité au classement avec 35 points, même si Niort a encore un match de retard à disputer. Ce sera le mardi dans 10 jours maintenant du côté de Grenoble. Grenoble qui est 18e de ce championnat. Toulouse, leader, 45 points. Ajaccio qui joue demain soir face au Paris FC et pour leur second avec 42 points. Le Paris FC justement et Sochaux, deux équipes troisième pour l'heure avec 41 points. Et c'est Auxerre qui est cinquième de ce championnat avec 38 points. Et puis ensuite juste derrière avec 35 points et le Havre et cette équipe de Niort. Un mot du championnat de national qui s'est joué vendredi soir. Les Choletais ont perdu à Sedan 3-1. À noter également que Laval conforte sa place de leader puisque les Mayennais se sont imposés face à Bastia 1-0. Laval leader, les Choletais sont quant à eux 9e avec 27 points. Un mot du championnat de National 2 avec la contre-performance des Herbiers sur leur pelouse hier soir à Massabiel face à Colomiers. L'équipe de Colomiers s'est en effet imposée 3 buts à 1. On aura Stéphane Massala, on aura sa réaction ce soir dans Sport dimanche dernier des Vendéens. Eh bien, la série s'arrête pour eux, hein, puisqu'ils avaient enchaîné 2 victoires consécutives. Et surtout, ça relance quelque peu Colomiers qui recolle un petit peu dans ce classement. Les Herbiers vont jouer le maintien, hein, c'est ce que dira ce soir Stéphane Massala. Ils sont 11e avec 21 points. Colomiers est 13e avec 18 points. Avant-dernier, c'est Montpellier avec 14 points. C'est serré dans ce bas de classement. Il va falloir cravacher pour cette équipe vendéenne pour se maintenir dans ce championnat de National 2. On reste dans les Pays de la Loire avec la National 3 chez nos voisins. À noter le beau succès de Pouzauges à la maison face à Saumur, le leader de ce championnat. Les hommes de Fuseau ont fait chuter les hommes du protégé Souris, l'entraîneur de cette équipe de Saumur. Victoire des Pouzaugeais, 3-2. À noter dans ce même championnat que Chalon s'est incliné à Saint-Philbert, 3-0. Que le Poiré a perdu à Sablé, 3-1. Que la Châtaigneraie a fait match nul à Laval, 1-partout. Que La Roche-sur-Yon s'est imposée face à Changer 1-0 et que Fontenay-le-Comte a fait match nul face à Vertou 1-partout. Ce championnat, il est toujours emmené par Saumur avec 34 points, mais La Roche est en embuscade puisque les hommes de Charles Devineau sont certes 3e avec 30 points, 4 points de retard, mais surtout 3 matchs de retard. Donc pour l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a peut-être un bon coup à jouer dans ce championnat, mais tant que les matchs ne sont pas joués, ils ne sont pas gagnés. Vous le savez bien. On reste en National 3 dans notre Ligue de Nouvelle-Aquitaine avec le match nul dans le derby de la Vienne entre Neuville et Poitiers, 1-partout. La réserve des Chamois jouera cet après-midi à Tartas. Les Bressuirais exempts pour cette journée de championnat. Attention, hein, si Tartas venait à l'emporter cet après-midi face à la réserve des Chamois, on sait que la réserve a pris une déculottée la semaine dernière face au Lech Cap-Ferré. S'il n'y a pas réaction niortaise, ça voudrait dire que s'il y a victoire de Tartas, les Bressuirais se retrouveraient bien seuls derniers à 4 points du poursuivant. Donc le match de cet après-midi est important pour la réserve des Chamois, mais il est aussi important pour cette équipe du FC Bressuire.
Sport Matin Dimanche, la rediff. Sport Matin Dimanche, la rediff.
On continue de dérouler les résultats des championnats de foot au niveau régional pour débuter. La Régionale 1, hier soir, Saint-Liguer qui chute à Guéret 4-0. La défaite de la réserve bressuiresse face à Fétia à la maison. Eh bien, les banlieusards limougeaux viennent s'imposer en terre bocquenne 5-3. 0-0 pour Choret en déplacement à Montmorillon. Cet après-midi, Échiré Saint-Gelais sur sa pelouse face à Buxerolles et le derby de Sévrien entre Saint-Florent et Nueil-Aubier. Résultat, réaction ce soir à partir de 18h. Du côté de Nueil-Aubier, on enregistre une recrue avec le Mercato là encore. Hein. C'est Jay Bizier qui était alors au FC Bressuire. Transfuge, donc transfert, et qui viendra renforcer les rangs de l'équipe du FC Nueil-Aubier. Régional 2, avec la réserve de Choret face à Nintré hier soir, c'est du 1-partout. Cet après-midi, beau derby en Gâtine entre Le Talus et Parthenay-Viennet. Derby également, Boquin, celui-ci entre Saint-Sauveur et Montcoutant. Des rencontres à 15h. Régional 3, dans la poule A, la défaite de Terve en déplacement à Buxerolles. La réserve Poitevine s'est imposée 2-0. La victoire du CO Cerisay face à la réserve de Neuville, 3-1. Le succès de Saint-Varan-Pierget face à Nord 17, 1-0. Cet après-midi, la réserve de Thouars en déplacement pour affronter son homologue Châtel-Rodez. Omar Hortet à la maison face à Niolles-l'Espoir. Et puis derby de Sévrien entre Saint-Serbouillé et le Pays de Loing. En régional 3, Selverine à la maison a fait match nul face à Entrant, 1-partout. Et le Pays Mélois s'est imposé face à la réserve de Ligugé, 2-0. Le Pays Mexantais est allé chercher le point du match nul à Saint-Benoît, le score de parité 1-partout. À noter également en régional 3 dans la poule C, eh bien que Saint-Liguer, la réserve, joue cet après-midi à la maison face à Niolles-l'Espoir et que la réserve de Saint-Florent joue, elle, face à Marennes. Attention, réserve Saint-Florentaise à 13h pour cette rencontre. Saint-Liguerre, quant à lui, ou quant à elle, plutôt, cette réserve jouera à partir de 15h. Les championnats départementaux, on commence par la première div. 3 matchs hier soir, le succès de l'Avenir 79 en déplacement à Val. Victoire de l'Avenir, 3-0. À l'extérieur, Saint-Aubin-le-Clou s'est imposé à Hervaux-Saint-Jouin, 2-1. À l'extérieur toujours, victoire de Vrine, score de tennis à Ardin, 6-4 pour Vrine. Cet après-midi, la réserve du FC Bressuire à la maison face au Pays Argentonais. Frontenay-Saint-Symphorien opposé à Échiré-Saint-Gelais. Et puis l'Interbocage à la maison face à la réserve de Neuilly-Aubier. On relaie en quelque sorte également le message du président Guignard au niveau du district. Du calme. On joue au foot, messieurs, avant tout pour se faire plaisir. On respecte les arbitres, mais que c'est bon de jouer au foot quand tout se passe bien. Et c'est ce à quoi aspire le district des Deux-Sèvres après les quelques événements importants quand même sur les stades ces derniers temps. Allez, le jeu, rien que le jeu. En départemental 2, dans la poule nord, hier soir, le succès du FC 3C Chanteloup-Cours-la-Chapelle qui s'impose face à Bus-Lortireuil, 4-2. Cet après-midi, Vrère-Saint-Léger face à la réserve de l'Interbocage, Louzy face au Talus, les Portugais de Cerizay à la maison face au Mahorais, Saint-Varan-Pierget opposé au Pays Tenzéen et la réserve du Sceau Cerizay à la maison face à Beaulieu-Breuil. Résultat de deuxième division dans la poule sud, un match hier soir, c'est la victoire de Gatifoot en déplacement au FC Boutonnais, 4-3. Cet après-midi, Lezay-Effre, Choret face à La Crèche, le Sud-Gâtine face à Brulin, le Haut-Val-de-Sèvre face à Val-de-Boutonne et Beauvoir qui sera opposé à Mauzé-sur-le-Mignon. La page basket, on y vient maintenant. Oui, vous les attendez, ces coups de gueule. Allez, on commence par le beau succès. Ça y est, la série est enclenchée pour les Choletais. Nous avions deux spécialistes aux commandes hier soir sur les ondes de Colline, à savoir Sylvain Schwartz et Jordan Baudry. Ils vous ont fait vivre, ils ont bien vécu cette victoire choletaise dans la douleur, 80-76. Des Choletais qui ont compté une vingtaine de points d'avance avant de voir cette avance fondre comme neige au soleil. Un petit clin d'œil aux skieurs qui nous écoutent peut-être depuis les Alpes ou les Pyrénées. Eh bien, les Choletais s'imposent quand même 80-76. On va d'abord écouter le coach, alors l'assistant coach, puisque Laurent Villa a été covidé, donc pas sur le banc bien sûr hier soir, c'est Lefrançois, son assistant coach qui prenait les commandes de l'équipe hier soir. Alors entre peur et soulagement pour l'assistant coach victorieux hier soir, Lefrançois.
C'est dommage qu'on se fasse un peu peur, c'est dommage, mais je suis vraiment vraiment content pour déjà pour Laurent parce que c'est dur pour lui qui est enfermé chez lui et voilà. Je suis content pour les gars parce qu'ils ont travaillé dur toute la semaine. Et je suis aussi content parce que tout le monde a participé à ce match. Donc il y a eu un vrai contenu en première mi-temps. Effectivement, on a un peu gelé le ballon en deuxième mi-temps. Il y avait moins de mouvement, moins de jeu de passe. Et c'est ce qui nous a fait défaut. Après, les choix défensifs ont aussi forcé ce truc-là. Donc voilà, mais on a su trouver les ressources. Et j'ai beaucoup aimé, je vous dis, les attitudes des joueurs qui, même dans le temps faible, n'ont pas lâché, ne sont pas crispés, n'ont pas déraillé, en fait. On est resté sur le chemin qu'on s'était fixé et on sort vainqueur et j'en suis content.
Ouais, il peut être content, l'assistant Lefrançois. Au classement, les Choletais, alors, sont certes toujours en T-pénultième à 16e place, mais c'est surtout qu'ils se détachent un peu et du Portel et de Fausse, deux équipes qui totalisent 5 victoires. Et maintenant, il y a un peu un mini-championnat qui s'organise avec des équipes qui ont 7 victoires pour 12 défaites. Cholet, Orléans, Chalon-Reims et Paris. Écoutez bien, les deux prochains adversaires de cette équipe choletaise, eh bien, c'est justement Paris et l'équipe de Chalon-Reims. Donc Cholet, qui vient d'enchaîner deux succès consécutifs, va jouer contre des concurrents directs avec un peu d'énergie, avec un peu de confiance. Ça peut être intéressant pour la suite du championnat dans cette Betclic Elite. Allez, on va retrouver le donneur de leçons maintenant, Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de Roanne. Alors pourquoi donneur de leçons? D'abord sur le terrain, parce que à 2 secondes de la fin, les Choletais menaient de 4 points et l'entraîneur Choletais prend un temps mort. Et c'est vrai que ça se fait peut-être pas trop, sauf que les Choletais, et d'ailleurs on aura la réponse de Lefrançois tout à l'heure, les Choletais ont déjà perdu des matchs comme ça, hein, où on croyait les voir gagner et ils perdaient. Donc Lefrançois, il a pas pris de risque. À deux secondes de la fin, même si son équipe menait de 4 points, il prend le temps mort. Et ça, ça n'a pas trop plu à Jean-Denis Choulet.
Non, monsieur, faut être sérieux. Il restait 2 secondes avec la possession de balle. On ne peut pas marquer 6 points en 2 secondes. Est-ce qu'il est possible de marquer 6 points en 2 secondes? Moi, en tout cas, je vous le dis, jamais je ferai quelque chose comme ça. Jamais. Jamais. Parce que c'est un, pour moi, je le prends comme un manque de respect. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un jeune coach, j'ai jamais coaché Andy Pellit, il est bien là, il gagne un match. C'est très bien. Moi, je suis content parce que son travail était bon ce soir. Par contre, c'est des choses qui ne se font pas entre coachs. Alors si vous pensez que je suis, énervé, parce que je ne suis pas énervé, je dis simplement que c'est des choses qui ne se font pas. Et que je ne ferai jamais.
Alors Jean-Denis Choulet, un peu énervé et donneur de leçons sur le terrain. La réponse du coach Lefrançois, il prend ce temps mort, ben oui, parce qu'il a eu un peu peur.
Il y a deux choses. La première chose, c'est que vous avez vécu aussi bien que moi les matchs qu'on a eu cette saison, où des fois on pensait avoir gagné un match et qu'on l'a perdu. Alors effectivement, 4 points, un peu moins de 3 secondes à jouer. Voilà, moi je voulais assurer et mettre la balle sur le terrain. Voilà. Après... Bon, qu'il me fasse la morale s'il veut, mais au match aller, pendant 2 minutes, alors qu'il était à plus 20, il a pas regardé le terrain, il a regardé que Laurent en le provoquant. Donc moi je veux bien, mais voilà. C'était aussi mon petit clin d'œil pour Laurent.
Ah oui, ça y est, il a rendu la monnaie de sa pièce au coach Jean-Denis Choulet. J'ai bien aimé, Hugo, quand vous avez entendu tout à l'heure et quand vous avez fait ce montage très très bon de Jean-Denis Choulet, vous m'avez soufflé dans l'oreille, je l'imagine grand costaud, Jean-Denis Choulet. Bah, c'est tout à fait ça, un super gaillard, une 60aine d'années, crâne rasé. Je peux vous dire qu'il en impose un peu et il a continué d'en imposer en salle de presse. Alors on vous explique, d'ordinaire, alors Makoundou était en train d'évoquer son match, il a encore été très bon, Johan Makoundou, avec un double-double, il a très très bien défendu. Et puis Jean-Denis Choulet était pas très content, parce que d'ordinaire, c'est l'équipe adverse qui doit passer en conférence de presse avant l'équipe locale, pour une histoire de timing, etc. Et je peux vous dire qu'il y a eu un échange, on vous le donne, il y a eu un échange entre Julien Hippocrate, notre confrère de Ouest France, excellent journaliste, excellente plume dans Ouest France et qui connaît très bien le basket. L'échange entre Julien et Jean-Denis Choulet n'est pas piqué des vers. Une nouvelle fois, un Choulet, donneur de leçons, écoutez plutôt.
Non, mais des choses qui ne vous regardent pas et dont je ne parlerai pas. Voilà.
C'est vous qui en avez parlé, donc c'est normal
qu'on pose
une question.
Bah, posez la question, moi je vous réponds, ça ne vous regarde pas. Ouais. Voilà, la réponse est là, ça ne vous regarde pas.
Très bien.
Voilà. Merci monsieur. J'ai quand même le droit de dire que ça ne vous regarde pas.
Oui, oui. Et vous avez fait des leçons de respect de morale alors que vous n'avez pas laissé un jeune Johan Makoundou finir. Vous pouvez juste vous disiez, dernière question parce que je suis là. En termes de respect et tout ça de morale.
Non, il y a des règles, monsieur.
Ce que vous voulez, monsieur.
Il y a des règles, monsieur. Il y a des règles, oui. Il y a des règles dans la Ligue nationale de basket qui font que l'équipe visiteuse passe en première en conférence de presse.
Ouais, je suis d'accord.
Ok, donc il y a des règles, on respecte les règles. Voilà, non, c'est tout. On respecte les règles, monsieur. On respecte les règles, monsieur. On respecte les règles, monsieur.
On respecte
les règles.
Bon retour, monsieur.
Voilà, on respecte les règles.
Allez, vous ne manquerez pas de réécouter cet échange musclé avec ce donneur de leçons, Jean-Denis Choulet. Alors, effectivement, il y a des règles, mais bon, la Ligue de basket a fait pas toujours bien les choses non plus. Donc voilà, c'était pas très bien joué de la part du coach Jean-Denis Choulet.
Sport Matin Dimanche, la rediff.
J'étais en train de rechercher sur mon portable le message que Jordan Baudry et Sylvain Schwartz m'avaient envoyé hier soir au retour de Niort, puisque j'étais avec Jérôme Degnaud sur Niort-Le Havre. Merci mon Vincent, tu écouteras, c'était chaud en conférence de presse. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous en tout cas les garçons d'avoir fait le job hier soir et on était très heureux de partager ces réactions avec tous nos auditeurs ce matin sur les ondes de Colline. On parle basket avec quelques résultats en National 2. La défaite des Niortais face à Pornic, il est vrai, Pornic leader de ce championnat. Les hommes de Laurent Hay ont chuté 69-56 en National 3. Masculine, la lourde défaite des Bressuirais en déplacement à Saint-Médard en terre girondine. Les Bressuirais s'inclinent de 50 points, 96 à 46. Et puis, chez les filles, on joue cet après-midi. Les Bressuirais à la maison face au Smash Vendéen. Les Chorésiennes en déplacement à Cholet. Match à 15h30. Résultat ce soir dans Sport dimanche dernière. Résultat également, eh bien, plutôt non. Réaction maintenant, pardon, que dis-je, avec Baptiste Quétineau. Alors, Baptiste, c'est lui le copain de Rudy Gobert. Et pour ne rien vous cacher, vendredi, quand l'info est tombée, vendredi matin assez tôt, Rudy Gobert sélectionné pour la troisième fois consécutive pour les All-Star Games aux États-Unis. Tout de suite, j'ai pensé à Baptiste. Je me suis dit, allez, il faut qu'on ait ce jeune homme en direct avec nous dimanche matin pour nous confier ses réactions. Bonjour, Baptiste.
Bonjour.
Merci beaucoup de passer nous voir sur les ondes de Colline. On a un très très beau Sport Matin dimanche à vous faire partager et vous faites partie de nos invités. On est très heureux. Je disais tout à l'heure avant la réclame, le copain de Rudy Gobert, c'est pas un vain mot, c'est bien ça, Baptiste. Vous êtes un des copains de Rudy Gobert.
Oui, c'est bien ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant et on a toujours gardé contact. Voilà, donc on est resté proches.
Vous nous expliquez comment cette amitié est née?
Je jouais à Cholet Basket, j'étais en cadet région, et puis Rudy est arrivé au centre de formation, et il s'entraînait une à deux fois dans la semaine avec les cadets région de Cholet Basket, donc c'est là qu'on a commencé à prendre contact. Et puis, pour la petite anecdote, après j'étais livreur de pizza en job étudiant, et puis du coup, il commandait souvent pour qu'on se voit, et puis on restait ensemble après le soir pour jouer aux jeux vidéo, regarder les matchs de basket, la NBA, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'après notre amitié a commencé.
Il était déjà impressionnant en cas des régions quand il s'entraînait avec vous, Rudy?
Pas tant que ça. C'était quelqu'un qui a grandi très très vite, donc il a dû réapprendre à tout faire assez rapidement, donc à se déplacer, à shooter. Voilà, il est arrivé à Cholet, il était plus petit que moi. Je fais 1m98, il faisait 1m90 et en 2 ans, il est passé à 2m16, quoi. Donc, ouais, c'était plutôt impressionnant.
Vous ne devez plus le reconnaître, Baptiste, vous qui êtes allé le voir, qui êtes allé en décembre dernier aux États-Unis retrouver Rudy Gobert. Vous devez paraître petit maintenant.
Ah, au niveau taille, oui, mais après, Rudy est toujours resté le même. Quand je le retrouve, c'est toujours le même Rudy que j'ai connu à Cholet.
C'est une chance énorme, cette amitié qui se prolonge et Rudy qui vous invite chez lui.
Oui, je pense que c'est beaucoup m'envierait. Après, c'est quelque chose que j'en fais pas non plus des caisses. On a gardé contact. C'est très, ça fait toujours plaisir aussi d'être reconnu. Et puis il m'a invité en décembre là pour passer une petite semaine avec lui. C'était pour mes 30 ans. Il m'a dit je t'invite pour tes 30 ans, viens donc passer une semaine à la maison.
Et alors cette semaine, ça vous a permis de découvrir un peu l'envers du décor, parce que quand on parle Rudy Gobert, on se dit super joueur, super défenseur, joueur du NBA, un des gros salaires du NBA, et il est resté simple. C'était comment?
J'y suis déjà allé moi en 2017. Donc là c'était la deuxième fois que j'y allais. J'y suis allé avec ma compagne. On a pu voir 3 matchs. On allait voir 3 matchs directement. Puis après on s'est un petit peu baladé dans la ville, le centre-ville. Et puis voilà, on a passé un peu de temps avec Rudy. Donc on a pu vraiment constater comment il vivait une semaine pleine de saison NBA, quoi.
C'est un bosseur, c'est ça, parce que on voit une facette, mais derrière il y a un travail de fou.
Oui, alors les gens remarquent entre guillemets, ils voient pas le travail de l'ombre, mais Rudy, ça n'a jamais été le joueur le plus talentueux du monde, mais c'est un bosseur, et s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il travaille beaucoup 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 plus que les autres, quoi.
Il travaille et puis il a aussi une hygiène de vie exemplaire, Baptiste.
Oui. Alors après, il y a rien qui est laissé au hasard chez Rudy, de l'alimentation jusqu'au sommeil, à l'hydratation, l'hygiène de vie. Alors rien n'est laissé au hasard et c'est un sportif de haut niveau dans tous les sens du terme. Donc voilà, il laisse rien passer et tout est contrôlé pour que il puisse avoir une carrière longue durée et puis qu'il soit performant le plus longtemps possible.
Cette troisième sélection pour les All-Star Games, c'est pas une surprise à vos yeux?
Non, surtout que là, cette année, c'est mon avis perso, mais c'est quasi une de ses plus belles saisons au niveau statistique. Il tourne à 16 points, 15 rebonds, avec des pourcentages jamais égalés jusqu'à maintenant. Donc, non, il mérite amplement et voilà, il fait partie vraiment des meilleurs joueurs au monde.
Allez, petite indiscrétion, continue-t-il de manger des pizzas?
J'en ai pas mangé dans la semaine, non. On a mangé plutôt sainement. J'ai même pas pu manger un burger avec lui dans la semaine. On a dû faire ça avec ma compagne en centre-ville. Mais lui, il a pas voulu nous accompagner.
Merci beaucoup, Baptiste.
Merci à vous.
Merci, c'est très sympa d'être venu parler de Rudy Gobert. Merci Baptiste Quétineau, qui était aujourd'hui éducateur de basket du côté du Puy-Saint-Bonnet. On aura bien sûr l'occasion de converser d'autres fois avec Baptiste Quétineau. Merci beaucoup. On passe à la page hand avec quelques résultats dans cette division, notamment en National 1. La défaite de La Rochelle face à Mios Biganos 39-17. Et puis en National 2, c'est l'équipe de Celles-sur-Belle qui a cartonné face à Saint-Sébastien. Les réservistes celloises cartonnent 40-26. On reste avec les Celloises puisque l'équipe féminine, l'équipe en ligue féminine en première division, jouera mercredi prochain à la Clameur de Niort. Les handballeuses celloises ont pour l'instant décroché seulement 2 victoires et ces 2 victoires ont été obtenues justement dans cette salle niortaise. Mercredi, retour donc à la Clameur pour la réception des Parisiennes. Fred Vignier, le président cellois.
On espère qu'il y aura du monde. On a le partenaire Quadricole qui a décidé de nous aider et qui a acheté 400 places. Le conseil général qui est aussi partenaire sur cette soirée-là. Et puis les filles sont sur 2 victoires à la Clameur cette année, sur cette saison. Donc elles sont invaincues à la Clameur. Donc il faut qu'on continue cette bonne dynamique. Si ça doit nous réussir. Et puis Paris, même si c'est une équipe qui joue plutôt le haut de tableau, et qui est une équipe avec un profil qui nous allait bien, parce qu'au match aller, on n'avait pas Périne non plus. Et l'équipe avait plutôt joué à armes égales la plupart du match, jusque sur la fin de match où on a craqué un peu. Mais bon, voilà, c'est le propre d'une équipe qui est promue et qui découvre un peu le niveau. Mais c'est un match qui reste dans une ambiance un peu chaude, comme il peut y avoir à la Clameur. C'est un match qui reste abordable.
Alors, les 2 victoires justement obtenues à la Clameur, hasard ou coïncidence?
Non, je pense que c'était des matchs qu'on avait ciblés. Donc c'était les matchs qui, dès le début de championnat avec l'entraîneur, on s'était dit que c'était des matchs qui étaient jouables par rapport à ce qu'on savait des effectifs et de la valeur athlétique de l'équipe d'en face. On les avait ciblés comme étant des matchs qu'on pouvait cocher pour une victoire. Donc c'était pas du hasard, c'était pas de l'opportunisme, c'était réellement des équipes qui étaient ciblées sur ces matchs-là. Donc il n'y en avait pas tant que ça de cibler, mais ces deux-là l'étaient. Il y en avait une autre où on espérait faire un meilleur résultat, c'était plan de cuc à plan de cuc, où on a été dans le match pendant 45 minutes, et puis on craque sur les 10 dernières. Voilà, c'est tout le travail qu'il faut mener pour essayer de mieux gérer les fins de match.
Et puis par rapport à ce match à la Clameur, il n'y aura plus de jauge, hein, donc ça sera le moment d'en profiter.
C'est
aussi. Hein.
Il n'y a plus de jauge, mais il n'y a toujours pas la buvette. Donc en termes financiers, c'est quand même un peu un problématique pour nous, parce que c'est quand même un endroit où on arrive à faire un peu de business avec les différentes buvettes qu'on peut mettre dans la Clameur. Donc c'est pour ça que la solidarité du Clair École qui vient en aide pour essayer de combler un peu les tribunes, pour être sûr de faire une opération aussi financière intéressante, on les remercie pour ça.
Ouais, Fred Vignier qui répondait aux questions de Fabien Gazot. Celles-sur-Belle contre Paris 92, c'est mercredi 9 février à 20h30 à la Clameur de Niort. Du hand, on passe à l'athlétisme avec la jeune sociétaire du SBAC Emma Jiquel qui a été en équipe de France l'été dernier, qui est désormais sur la liste des sportives de haut niveau et qui, fin janvier, a reçu une sacrée bonne nouvelle. Emma Jiquel.
J'ai reçu un mail il y a maintenant, ça doit faire une semaine et demie. C'est une présélection pour les championnats du monde scolaire, donc UNSS, qui se dérouleront du 14 au 20 mai 2022.
Donc présélection, ça veut dire qu'il y a encore une étape avant d'espérer pouvoir y participer.
Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir continuer à s'entraîner. Donc c'est les résultats de cet été qui comptent, et ainsi que les résultats de cet hiver en salle. Donc on va tout donner pour essayer d'être sélectionné.
Et Magiquel, de nous avouer que cette présélection l'a quelque peu fait vaciller.
C'est pas moi qui ai découvert en premier, c'est mon entraîneur. Du coup, il m'a dit d'aller regarder. Et quand j'ai vu, j'étais là, j'ai un peu bugué. J'étais là, bah, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et finalement, bah, si. Donc, c'est super.
Alors, les échéances à venir désormais pour la sociétaire du SBAC, les voici.
Les championnats de France en salle, donc du 19 au 20 février, donc dans 2 semaines, là. Ouais.
Donc en termes de prépa, t'en es où? C'est pour ça qu'on t'a pas vu sur la saison de cross, hein.
Oui, c'est ça, je me suis concentrée sur la saison de piste cette année, donc c'est une première parce que j'avais jamais fait de piste en salle avant, donc c'est de la découverte. Et puis bah oui, les cross, non, pas de cross.
Donc, entraînement à Poitiers?
J'ai fait un stage à Poitiers pendant les vacances d'hiver de sprint. Et là, ben, je m'entraîne à Bressuire avec mon entraîneur.
Ouais, mais en salle, c'est particulier quand même.
En salle, ben, oui, mais je fais quand même les entraînements dehors. Et après, la salle, les salles, surtout, c'est surtout à Nantes, Bordeaux. Tout ça, je suis allée à Lyon la semaine dernière.
Et justement, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur le fait de courir en salle. Un anneau de 200 mètres, hein, c'est différent de ce qui se passe en extérieur. Ça donne quoi, Emma?
Pour le 400, c'est différent parce que du coup, on se rabat, du coup, c'est un peu plus stratégique. On n'est pas tout le temps dans son couloir. Après, 800, pareil, je trouve qu'il y a un peu plus de bataille dans les compétitions en salle, donc c'est intéressant de voir les deux.
T'as pas peur?
Non, 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 à fond.
Ok, pas de pression non plus?
Non, bah, un peu du stress, mais on va tout donner et on verra bien ce que ça donnera.
La pétillante et magiquelle sociétaire du SBAC en lice, donc présélectionnée pour ces championnats du monde du NSS en mai prochain. Allez, présélection, mais si ces championnats à venir se déroulent bien, on devrait la retrouver en Normandie juste avant l'été.
Sport matin dimanche, la rediff.
Allez, on termine ce sport matin dimanche avec Nicolas Onillon qui a quitté la présidence du Triathlon Club de Gâtine 79. Thierry Barraud a pris la succession de Nicolas qui était président depuis 4 ans. Triathlète de haut niveau, âgé de 38 ans, l'enseignant en EPS a tourné la page après avoir surmonté une grave blessure suite à une chute de vélo. Un départ à la fois préparé et précipité aussi par le Covid. Nicolas Onillon qui s'en va rejoindre les Sharks de Thouars, un club familial spécialisé dans le triathlon longue distance. Alors évidemment, avec un emploi du temps qui va être différent quand on quitte une présidence, Nicolas Onillon va pouvoir maintenant se fixer de nouveaux objectifs sportifs.
Bah, les longues distances, on va dire qu'en triathlon, on parle de longues distances à partir de l'Alf Ironman, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km en course à pied, donc le semi-marathon. Et puis donc des Alf Ironman, et puis on peut doubler les distances pour être sur la distance Ironman. Et donc là, je suis déjà inscrit pour le mois de mai à l'Ironman d'Ourthain, le Frenchman, que j'ai déjà fait en reprise de convalescence au mois d'octobre. Et puis là, au mois de mai, j'irai en étant un peu plus ambitieux.
Alors ça veut dire, j'imagine maintenant que cet épisode convalescence, ça y est, il est bien derrière toi, tu te fixes vraiment des objectifs?
Oui, je considère que la blessure est derrière moi depuis justement que j'ai passé la ligne d'arrivée de l'Ironman d'Ourthain au mois d'octobre. Et là maintenant, j'ai commencé une nouvelle saison, un nouveau club. Et donc oui, je repars à 100%, j'ai tous mes moyens, et donc je me fixe pas de limite je me considère pas comme un retour de blessure, mais vraiment comme un compétiteur.
De nouveaux objectifs donc pour Nicolas Onillon, avec une charge d'entraînement qui sera forcément différente.
Alors oui, c'est vrai que dans l'imaginaire, ça va être une épreuve qui dure 8, 9 heures, 10 heures. Donc faut beaucoup de travail foncier. Mais j'avoue justement que suite à ma blessure, j'ai voulu tester une préparation plus légère. J'étais sur un volume de 12 heures d'entraînement par semaine sur 10 semaines. Ça a bien fonctionné, donc je me dis qu'il faut trouver le juste milieu entre arriver bien entraîné mais pas arriver fatigué. Donc là, j'ai analysé un peu ma préparation et je pense partir sur 12 semaines à environ 15 heures d'entraînement.
Bien aller, bien gérer cette préparation, sans oublier également de bien gérer, voire d'alléger la fameuse charge mentale.
J'essaie de voir le côté vraiment plaisir. Je me fixe pas de chrono. Avant, j'avais tendance à faire la course avant, me dire je vais mettre 4 heures en vélo, je vais mettre 3 heures en course à pied. Là, je me fixe pas de chrono. Je me dis le but en longue distance, c'est de gérer son effort du mieux possible le jour J, avec les moyens du jour J.
Nicolas Onillon, l'ancien président du TCG 79, l'ancien membre également, un ancien triathlète qui œuvrera désormais sous les couleurs des Sharks de Thouars avec cette échéance à venir en mai prochain pour cet Alpha Man du côté de Ourthain. C'est la fin. Oui, mon cher Hugo. C'était un peu tendu, hein, mais on avait vraiment un beau sport matin dimanche à vous présenter. On a joué un petit peu plus que le temps additionnel, mais l'arbitre a l'air d'être plutôt satisfait de ce qui s'est passé ce matin. J'espère que vous avez passé également une belle émission en notre compagnie. On aura plaisir à se retrouver ce soir. D'ici là, passez une bonne matinée. France-Italie ce soir à 16h. Hein, cet après-midi à 16h, c'est du rugby. Le COB en déplacement à Niolles, Parthenay-Sainte, Choret en déplacement à La Couronne, La Rochelle qui jouera à Biarritz. Voilà pour le programme rugbystique de cet après-midi. Bon dimanche, à ce soir 18h. Merci Hugo, merci beaucoup. Bon dimanche, ciao.
Sport Matin Dimanche, la rediff.